Et pour parler de tout ça, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Gaëlle Mac. Bonjour Gaëlle.
Bonjour.
Directrice déléguée de la rédaction de Challenge. À vos côtés, votre comparse Gaëlle Slimane. Bonjour Gaëlle.
Bonjour Raphaël.
Président de l'OXA et Ryan Nézard. Bonjour Ryan.
Bonjour.
Professeur à Sciences Po. Gaëlle, je le disais, c'est l'heure, tout comme tous les premiers jeudis du mois, du sondage mensuel au Doxa. Un, vous allez nous dire comment va le moral des Français, avec une petite surprise d'ailleurs pour commencer.
Pas si pire que ça.
Ouais, finalement, il faut nourrir l'optimisme. Et puis surtout, ce grand sondage sur les Français et les syndicats, alors que, je vous le disais, la CGT tient en ce moment même son congrès, et la CFDT, elle, ça arrivera dans quelques jours.
Pour le moral, pour une fois, le sondeur n'est pas porteur de trop mauvaises nouvelles. Je crois que il y a des, comment dit-on, en bourse, prise de bénéfices.
Oui.
Et donc, on est tombé très, très, très bas avec cette guerre au Moyen-Orient. Et à un moment donné,
on finit
quand même par se lasser des tweets quotidiens de Donald Trump,
ouais,
et des annonces les plus improbables. Donc, le moral s'améliore. On a un gain ce mois-ci par rapport au mois dernier de 5 points. J'en chausse mes lunettes tellement ça me paraît spectaculaire.
C'est quand même hyper surprenant. Pardon Gaëlle, qu'est-ce qui explique? Tous les indicateurs macroéconomiques sont... dégoûtants. Voilà, dans le rouge.
Juste rappeler les choses, 79% des Français ne sont pas confiants en l'avenir de la situation économique de leur pays. Ça, c'est la photographie.
Oui.
On ne demande pas aux gens de dire si ça va mieux, mais c'est un indice pour eux-mêmes, c'est un indice sur la confiance en la situation économique de leur pays qui est à 79% négatif. Les moins de 30% qui restent et qui sont à peine 20% qui restent et qui sont positifs, ça représente pas grand-chose. Mais c'est moins pire que le mois dernier,
oui,
parce que on était sur un point bas. Et le mois d'avant aussi, on était sur des points très bas où on venait d'avoir des rebonds sur le conflit au Moyen-Orient, sur les hausses du prix du pétrole. Et donc, à un moment donné, la tendance, elle n'est pas bonne, quoi qu'il arrive.
Hein. Ouais.
Ça fait, je le dis souvent à propos de ce moral économique, depuis presque 2 ans maintenant, ça fait effectivement 2 ans, depuis la dissolution, que nos concitoyens ont le sentiment que leur pays va dans le mur et qu'il n'y a plus de pilote dans l'avion parce qu'on ne peut pas gouverner le pays. Donc, ça, c'est pour le moral. Les seuls moments où il s'améliore, d'ailleurs, alors que les Français nous disent ne pas croire en la politique, vous regarderez la courbe sur notre site Odoxa ou sur celui de BFM ou de Challenge ou d'Agipi d'ailleurs. Les seuls moments où on voit l'indice de morale remonter nettement, c'est au moment d'élection présidentielle.
Oui.
Et donc, on verra dans quelques mois des Français nous dire « je crois pas à la politique, je crois pas dans les politiques ». Et en même temps, leur indice de confiance en l'avenir économique s'améliorer. Nous sommes le peuple le plus politique au monde.
Oui.
Voilà pour l'économie.
Et comme quoi le mythe de l'homme providentiel fonctionne toujours et encore de manière assez étonnante, je dois dire.
Ma conviction, c'est que la raison pour la... c'est pas lié au génie des peuples, c'est pas une question de rapport des Français à la police, c'est pas tant cela, c'est plutôt notre système politique qui produit fondamentalement ça. Nous sommes quasiment le seul pays au monde en démocratie,
oui,
à confier les rênes de tous les pouvoirs à un seul homme au moment de la présidentielle. Même aux États-Unis, il y a davantage de contre-pouvoirs, Gaël. Même aux États-Unis. Là, c'est Donald Trump et on verra avec les midterms. Mais en France, on a vraiment cette singularité. Et donc, forcément, on attend beaucoup trop de celui qu'on a élu et on le déteste immédiatement. Vous regardez les popularités des présidents, 70% à l'arrivée.
Et oui.
Et
il faut qu'il parte pour que ça remonte dans la cote de popularité. C'est l'ONU.
Voulez-vous qu'on parle des syndicats?
On va parler des syndicats. Juste un point. Est-ce que traditionnellement, votre sondage sur le moral des Français remonte au mois de mai? Est-ce que c'est pas l'effet
pont? Ah non, un effet de saisonnalité.
Les soleils.
L'effet jour férié.
On est en juin et mai était le mois dernier. Peut-être les jours fériés.
Le repos des jours fériés que voulait supprimer François Bayrou.
C'était pas très populaire.
Allez, on passe aux syndicats.
Alors,
effectivement.
Les syndicats, on est, vous l'avez dit dans votre lancement, Raphaël, on est sur une très large majorité de mauvaises opinions à l'égard des syndicats en général. On a 62% de mauvaises opinions contre 38% de bonnes opinions. Et quand on regarde comment est cette popularité des syndicats depuis 10 ans, globalement, on est à peu près toujours dans cet étiage-là. Donc, elles n'ont pas, pour revenir à...
Deux tiers, un tiers, quoi, pour faire simple.
Ouais, en gros, c'est ça. Elles n'ont pas améliorer l'image des syndicats en France. Les deux dirigeantes des deux principales centrales syndicales de notre pays, elles n'ont pas non plus profité de l'effet d'enthousiasme qu'il y avait eu dans le combat commun contre la réforme des retraites, mais elles n'ont pas aggravé la situation non plus. Et surtout, les syndicats ont une image totalement typée. On a un prof de Sciences Po en face de moi. Il y a à peu près aucun autre sujet qui suscite, même les sujets immigration, insécurité, oui, autant de stéréotypes politiques que sur les syndicats. Pour faire simple, les trois quarts des sympathisants de tous les partis de gauche, quand on les prend en moyenne, disent « nous avons une bonne opinion des syndicats ». Et à l'inverse, les sympathisants de tous les autres partis politiques et du principal parti politique, c'est-à-dire les gens sans proximité partisane,
oui,
tous ont une mauvaise image des syndicats. Donc, à part
donc trop politisés, les syndicats, c'est ce que vous nous dites, finalement, si vous voulez élargir leur base.
Moi, je ne dis rien. Je décris ces chiffres qui montrent que si on aime les syndicats, c'est qu'on est de gauche.
Ryan Nézard, vous confirmez ?
Alors, moi, j'ai trouvé intéressant dans le sondage Odoxa un point concernant l'image de la CFDT en particulier.
Ah, parce qu'en fait, y viendra après.
Bon, ben, je vous laisse peut-être le faire. Mais peut-être pour introduire le débat. Parce que je pense que dire les syndicats de manière générale,
c'est trop large.
C'est avoir voilà une approche peut-être un peu trop globalisante. L'image de la CFDT est intéressante. Elle est d'autant plus populaire, en l'occurrence Marie-Lise Léon, chez les sympathisants du Parti Socialiste, des écologistes et de Renaissance.
Une voix qui porte à gauche.
Je trouve que c'est intéressant, oui, mais...
Centre-gauche.
Voilà. On va dire
moins radical effectivement que la CGT,
parti progressiste de l'opinion, et donc on voit qu'il y a aussi un jeu de positionnement des syndicats les uns par rapport aux autres. Ça c'est le premier point. Le deuxième point sur l'image négative, hélas je crains qu'elle ne soit partagée par les partis politiques et pardon cher Raphaël aussi par les médias. Donc l'image négative que peuvent avoir les Français à l'égard des syndicats, elle n'est pas forcément d'ailleurs fondée, hein, parce que en réalité beaucoup de syndicats sont dans une posture constructive de compromis derrière
et des
les
postures caméras, nationales qui ne sont pas forcément celles que l'on retrouve au sein des entreprises.
Moi j'aimerais vous raconter deux choses là-dessus sans être trop long. La première c'est sur les retraites. Vous en avez parlé. On a beaucoup évidemment commenté l'opposition. À l'époque c'était Laurent Berger de la CFDT main dans la main avec la CGT à la réforme d'Elisabeth Borne. Ce qu'on a peu raconté, c'est que sur d'autres sujets passés un peu sous le radar, ces syndicats ont aussi fait des compromis sur les retraites. Exemple sur l'Agirc-Arrco.
Oui.
L'an dernier, la CFDT a proposé de sous-indexer les retraites à Agirc-Arrco.
Non, mais sur les complémentaires, 2025. Les partenaires sociaux qui gèrent les complémentaires sont beaucoup plus sérieux que...
Mais parce qu'ils ont à la fois
l'État gestionnaire de
la responsabilité
général
et les leviers.
Eh oui.
Deuxième exemple, les RAF. Alors les RAF, pardon, c'est un sigle un petit peu barbare. C'est la retraite additionnelle de la fonction publique, pour le dire en français...
Le seul fonds d'investissement, le seul fonds
de capitalisation pour les agents publics. Existe,
voilà.
Exactement. Beaucoup, d'ailleurs, ignorent son existence. Ça, c'est géré, y compris par les partenaires sociaux. Vous avez un membre de la CFDT qui siège au conseil d'administration et qui décide de placer, je crois que c'est à peu près 50 milliards d'actifs qui sont gérés, de placer ces actifs pour produire du rendement et ensuite verser les prestations aux ayants droit. Et donc, vous voyez qu'en fait, sous les radars, derrière ces portes closes, vous avez des syndicats qui peuvent avoir des postures constructives, de compromis, et qui ne correspondent pas à l'image générale qu'en effet votre enquête montre auprès des Français.
Ça, on l'a vu souvent, nous, en tant que journaliste, Gaël Mac, effectivement, ces accords qui sont signés, notamment par la CGT, hein, qui ne signe traditionnellement aucun accord interprofessionnel, mais par contre, qui négocie beaucoup au sein de l'entreprise. Il y a une forme de dichotomie, comme ça, entre la posture politique au niveau national et puis ce qui se négocie dans l'entreprise.
Oui. Alors c'est vrai que je pense que juste un tout petit peu pour refaire un petit point sur ces chiffres, c'est vrai que ce qui pouvait paraître un tout petit peu décevant, c'est que finalement les deux syndicats ont renouvelé leur personnel politique.
Oui.
Ils ont pris chacun une femme, ils ont pris des femmes plus jeunes. C'est vrai que Sophie Binet, elle a à la fois un discours qui reste offensif à la manière de la CGT, mais elle vient quand même de la CGT cadre.
Oui.
Et voilà, et elle portait quand même un discours.
C'est une forme de disruption quand elle est arrivée d'ailleurs.
Exactement.
Hein.
Hein, je veux dire,
CGT,
voilà.
Qui est plutôt dans l'industrie, normalement.
Et d'ailleurs, les deux aussi ont quand même adopté une posture plus de coopération que leurs prédécesseurs. Bon, elles ont chacune sur leur.
Chacun à sa manière.
Chacun dans son couloir de nage, mais bon. Et à la fin, c'est vrai que. Et en plus, le syndicalisme n'avait pas eu de victoire, disons, de scalp avant cette réforme des retraites, quand même, qui était quand même un. Bon. qui était un acquis. Or, c'est vrai qu'elles n'en ont pas particulièrement tiré avantage. Enfin, je veux dire, ça ne se voit pas. Bon, je pense aussi qu'on est quand même dans une conjoncture assez morose. C'est vrai que la CGT fait des recensions sur le nombre de plans sociaux, sur la réalisation, etc. qui, bon, en fait, paradoxalement, déprime et décourage un peu plutôt que porte à la lutte, finalement.
Moi, ce qui m'a surpris, Gaël Sliman, c'est un Français sur deux incapable de dire qui est quand même le premier secrétaire de l'un ou de l'autre. On les a tellement vus pendant la bataille des retraites, encore pendant le conclave.
Alors, ne me spoilez pas trop l'un et l'autre, parce que je n'ai pas encore livré les chiffres sur l'image de la CFDT et l'image de la CGT.
Je vous tends le micro.
Donc, sur la CFDT, on est à 57% de mauvaises opinions, 42% de bonnes. Et là, pour le coup, il y a une très forte baisse, moins 9 points par rapport à la dernière mesure que nous avions effectuée il y a 6 ans. Et sur la CGT, on est à 62% de mauvaises opinions et à 37% de bonnes. Et c'est moins 6 points par rapport à cette mesure d'il y a 6 ans.
Qu'est-ce qui explique
ça? Ça veut dire qu'on a l'image des syndicats au global, qui globalement bouge pas trop, est assez stable. Et les deux mastodontes, les deux principaux poids lourds syndicaux, eux voient leur image baisser depuis ces 6 dernières années. Alors, je n'ai pas un suivi quotidien ou régulier, c'est sur 2 mesures. Une hypothèse que l'on peut formuler, c'est une déception, ce qu'évoquait Gaël Mac il y a un instant, sur un renouvellement qui a été fait, qu'on a vu, et après je reviendrai à leur non-notoriété parce que ça se discute, mais donc un renouvellement s'est fait et ça ne produit pas tant d'effets que cela. Deuxièmement, comment prendre ce qui s'est passé au moment de la réforme des retraites? Vous avez des syndicats qui sont en phase, tous les deux, avec, en gros, les trois quarts des Français, pour s'opposer à cette réforme. Vous avez des millions de personnes dans la rue, en cumulé, même pas en cumulé d'ailleurs, à chaque mouvement. Et à la fin, qu'est-ce que ça donne? Eh ben rien, du point de vue de l'opinion. Ça n'a pas été efficace.
Eh oui.
Du coup, une hypothèse, c'est cette question de l'inefficacité. Et après, je vais rejoindre ce que disait Ryan il y a un instant sur ce qu'il avait soulevé sur l'image de la CFDT. Il y a effectivement, et moi aussi, c'est ce que je relevais dans l'étude, d'intéressant. Une fois qu'on a dit les syndicats pris en global sont plutôt soutenus par la gauche et rejetés par les autres partis ou les gens sans proximité partisane, c'est vrai qu'il y a une différence de structure d'image de la CFDT et de la CGT. Pour la CGT, une image positive auprès des partis les plus à gauche, avec un carton auprès des sympathisants insoumis. Et pour la CFDT, une image qui est surtout bonne au Parti Socialiste et qui n'est pas mal non plus, finalement, à Renaissance. Donc, on voit, et je rappelle d'ailleurs, on ne se souvient peut-être pas bien, que la CFDT, s'ils étaient aussi en colère, Laurent Berger à l'époque, contre la réforme Borne, c'est qu'ils avaient topé avec Macron sur une autre réforme, qui était la réforme à points, que Édouard Philippe devait porter, et avec laquelle, d'ailleurs, les Français étaient plutôt d'accord. Donc, il y a vraiment eu, de ce point de vue-là, sur la CFDT, un sentiment de trahison. Après, j'en reviens aux popularités des deux héroïnes du moment, donc les deux leaders des deux mouvements
qui remettent leur mandat en jeu.
Marie-Lise Léon pour la CFDT et Sophie Binet pour la CGT. Attention, c'est la question qu'on pose, c'est une question où on demande si on a une bonne opinion, une mauvaise opinion, ou si on ne connaît pas suffisamment ou si on ne connaît pas suffisamment la personne pour avoir une opinion à son sujet. Et je pense que c'est, alors vous avez raison de le rappeler, Raphaël, on a beaucoup de Français, 63% qui ne connaissent pas suffisamment Maryse Léon pour émettre une opinion à son endroit, et Sophie Binet, un Français sur deux, 51%. Dans le cas de Sophie Binet, qu'on a davantage vu, je pense, je pense que c'est pas que les gens n'identifient pas tant que cela qui elle est, mais c'est: que dit-elle? Où est-elle? Et je rejoins ce que disait Gaël il y a un instant, on entend quand même beaucoup de messages qui sont des messages qui sont surprenants pour la base cégétiste dans la bouche de Sophie Binet, parce qu'elle porte beaucoup, souvent, sur des aspects sociétaux, sur des aspects que certains pourraient qualifier de woke, ou qui peuvent être sur des sujets d'égalité des sexes, ou des sujets comme ceux-là. Et moins sur les sujets d'industrie classique, de défense des catégories populaires par rapport au patronat. Et ça explique peut-être son manque de réussite dans l'opinion. Et là encore, on observe sur les deux personnalités, les deux leaders syndicales, la même dichotomie, très fort soutien pour ceux qui la connaissent, de Sophie Binet chez les Insoumis, Et à contrario, pour Marie-Lise Léon, on est plus soutenu au Parti Socialiste et au centre-gauche.
Oui, plus les sociaux-démocrates. Moi, ce que je retiens, c'est quand même, on a l'impression d'une forme de désenchantement vis-à-vis des acteurs syndicaux, de tous ceux qui font les politiques publiques, en réalité. C'est la même chose avec les politiques, évidemment. Mais j'ai l'impression que les Français mettent un peu tout ça dans la même nappe en disant ils peuvent négocier tout ce qu'ils veulent, de toute façon.
Oui, c'est vrai qu'il y a une défiance à l'égard des politiques, à l'égard des journalistes.
Si on faisait des institutions.
Des institutions, les sondeurs,
de tous les corps intermédiaires, en gros, voilà.
Il y a un sujet qu'on n'évoque pas, il y a une centrale qu'on n'évoque pas là, c'est Force ouvrière. Peut-être de son rapport avec l'extrême droite, pour le coup, qui est un véritable sujet aussi. La CGT et la CFDT sont deux centrales qui se sont exprimées clairement contre le Rassemblement National, refusent que leurs adhérents soient membres du Rassemblement National et en ont exclu certains qui s'étaient présentés d'ailleurs aux législatives. Vous sondez les gens sur
On a pris les deux, on a fait les syndicats au global et puis les deux CFDT-CGT parce qu'ils avaient une actualité là. On n'a pas sondé sur FO qui est moins connu aussi du grand public. Là, on est en train de parler. Vous voyez, quand on parle des deux leaders, des deux centrales syndicales, on a la moitié des Français ou plus qui ne les connaissent pas suffisamment pour avoir une opinion à leur égard. Je pense que côté FO, ce serait encore pire.
Vous avez beaucoup négocié avec les syndicats, Ryan, quand vous étiez membre de cabinet. Est-ce qu'ils influent réellement les réformes? Comment se passent ces discussions?
Alors oui, moi j'ai eu, par exemple, à l'Éducation nationale, plusieurs expériences dans lesquelles, notamment avec les négociateurs de la CFDT, c'était vraiment de très bons négociateurs qui connaissaient bien leur dossier, y compris les éléments techniques sur, par exemple, les grilles salariales des professeurs, sur tel ou tel élément, y compris pédagogique, à l'Éducation nationale. Et j'ai souvenir, c'était en 2023, l'automne 2023, qu'on avait fait, je crois que c'est 3-4 mois de round de négociation sur une réforme de la formation des professeurs. Et alors, il n'y avait pas que la CFDT, il y a sept organisations syndicales représentatives à l'Éducation nationale, donc tout le monde était dans la pièce. Mais c'est vrai que c'était des négociateurs relativement constructifs, au sens où ils arrivaient avec des objectifs, des demandes, mais dès lors que vous faisiez un pas, ils faisaient aussi un pas. Et ça m'a vraiment marqué, parce que j'avais une image qu'on peut tous avoir en tant que citoyen d'organisation parfois un petit peu pas forcément conservatrice, mais en tout cas
rigide.
Attachée à certains objectifs et pas dans une posture de compromis. C'était juste après la réforme des retraites, par ailleurs. Et en fait, leur intérêt, leur enjeu, c'est de ramener des victoires à la maison, si je peux dire. C'est de dire à leur base, et c'est assez légitime, aux personnes qu'elles représentent, de leur dire, écoutez, on a ferraillé, on a négocié, le gouvernement n'est pas d'accord avec nous à 100% et chacun est dans son rôle, mais on a obtenu des choses utiles, utiles pour vous et utiles pour le pays. Donc voilà, c'est pas pour redorer le blason des partenaires sociaux, ils n'ont pas besoin de moi pour
ça. Non, mais c'est la logique de
cette expérience-là
confrontation qui est parfois...
quand on est constructif de part et d'autre, on peut y arriver.
Parce que Gaël, en Allemagne par exemple, on sait que les syndicats sont là d'abord et avant tout pour défendre l'intérêt de l'entreprise, la prospérité commune qui revient aussi aux salariés.
Oui, alors bon,
par des hausses de salaire, c'est pas tout à fait la même logique non plus.
Oui, l'organisation allemande est différente dans le sens où souvent les syndicats sont membres des conseils d'administration, enfin il y a une sorte de co-gestion.
Et beaucoup plus puissant.
Et plus puissant,
du
mais
d'adhérents.
Eux aussi sont contestés. Je veux dire, dernièrement, il y a eu quand même des contestations aussi des syndicats. Mais c'est vrai que en France, il y avait, et ça c'est pas du tout récent. Maintenant, il y a quand même une désyndicalisation, c'est-à-dire ils ont quand même un problème d'adhérents. D'ailleurs, la CGT le reconnaît. Ils recrutent et ils perdent des adhérents. Ils n'arrivent pas à garder une base vraiment importante.
Ouais.
Et en fait, il y a un décalage entre leur importance institutionnelle, parce qu'on a besoin de partenaires sociaux, donc ils sont bien présents dans l'ensemble des instances représentatives, et leur poids électoral, entre guillemets, c'est-à-dire leur poids dans la population salariée qui, depuis très longtemps maintenant, est en déclin, ça c'est sûr.
Bon, pour terminer, Gaël, l'enjeu de Sophie Binet et Marie-Lise Léon pour les trois prochaines années. On sait qu'elles vont être reconduites, a priori, il y a assez peu de suspense sur ce point-là. Mais c'est donc peut-être davantage de lisibilité, de notoriété.
Il y a un premier enjeu qu'elles ne peuvent pas maîtriser, c'est qui sera à l'Élysée l'an prochain. Et ça, c'est un sacré enjeu, parce que selon qui sera le président de la République, ça changera totalement la stratégie nationale que pourront avoir ces syndicats. Si c'est Jordan Bardella, par exemple, Vous avez évoqué le rapport très clair qu'entretiennent la CFDT et la CGT à l'égard du Rassemblement national. Ça va être difficile de ne pas être dans une confrontation, peut-être stérile, mais c'est inéluctable. Si c'est un autre président, alors il faudra qu'elle puisse construire une relation, qu'évoquait Ryan, de négociation, de transaction. Le coche a été raté pour la CFDT, mais encore une fois, de ce que l'on sait, pas par sa faute, mais à cause d'Emmanuel Macron, au moment de cette réforme qui a été avortée, portée par Édouard Philippe sur la retraite à points. Parce que là aussi, la CFDT, qui longtemps a été traité par la CGT de syndicats vendus au patronat, pas assez à gauche, pas assez, ne défendant pas assez les travailleurs, la CFDT avait pris des risques en allant assez loin dans les discussions avec un Premier ministre dans le cadre d'une réforme des retraites qui n'est jamais très populaire ou qui ne fait jamais très plaisir.
Mais elle le fait toujours d'ailleurs. Marlise Léon, quand elle dit qu'aujourd'hui il n'y a pas de tabou sur la capitalisation et qu'elle prône plutôt une retraite à la carte et pas forcément revenir aux 62 ans et donc prête à travailler plutôt sur la durée de cotisation que sur un retour concernant l'âge légal.
Mais ils le font toujours.
Citoyen, mais je trouve que c'est plutôt courageux comme posture, a fortiori en étant à l'aveugle sur la prochaine présidence de la République.
En sachant qu'ils ont en tête, les syndicats, une chose que je rappelle ici, il est faux de dire que les Français considèrent qu'il n'est pas utile de travailler davantage. On répète ça tout le temps sur les plateaux. Les gens n'ont pas compris qu'il fallait travailler plus avec le vieillissant. On l'entend comme si c'était une vérité. C'est faux. On l'a sondé à maintes reprises, les Français dans les enquêtes comprennent, savent que la durée de vie s'accroissant, eh bien, il faudra trouver les moyens de travailler davantage. Mais ils disent juste une chose, et qui se comprend. Il y a un deal en France, arrêtez de nous comparer aux autres pays européens, parce que dans les autres pays européens, c'est l'âge.
Oui.
En France, il y a une règle qui est la durée de cotisation. Donc, si on vieillit davantage, il faudra cotiser davantage. Et il y a une réforme qui existe, qui était la réforme Touraine, qui incluait déjà dans l'esprit, avec la CFDT, la progressivité. C'est-à-dire que si on vieillit, mécaniquement, la durée de cotisation augmente. Ce qui a rendu les gens fous au moment de la réforme des retraites,
c'est l'âge pivot.
C'est qu'on dise, non seulement il y aura une durée de cotisation, mais en plus il y aura un âge. Et je rappelle juste que là, quand on fait des qualis, les gens nous disent, mais quelle est cette blague ? Si on doit cotiser 43 ans, le fils de cadre, qui va commencer à bosser à 25 ans parce qu'il va faire des études supérieures.
Oui.
Bah, les 43 ans, ça l'amène à 68 ans. Et donc, on peut bien mettre une retraite à 64, 65 ou 67, comme le souhaite Édouard Philippe. Ça ne changera rien pour les gens les plus aisés. En revanche, l'ouvrier qui commencera à bosser à 20 ans, je prends même pas les âges très jeunes exprès, la durée de cotisation, 43 ans, ça l'amène à 63. Si on lui dit tu vas bosser jusqu'à 64, ça lui fait un an de plus. Et ça, c'est un refus des politiques d'expliquer pourquoi, parce qu'il y a des arguments, je ne vais pas y revenir, on en a parlé sur ce plateau maintes fois, mais il y a des arguments pour jouer sur l'âge. Mais il aurait fallu expliquer, et pas que sur la cotisation, mais il aurait fallu expliquer aux Français pourquoi on faisait ce qui pouvait leur sembler une injustice, pourquoi c'était utile pour le pays, comment on voulait la compenser. Ça n'a pas été fait.
40% des Français n'étaient pas concernés par la réforme 2023 d'Elisabeth Borne, effectivement, puisqu'ils avaient commencé à travailler jeunes et qu'il y avait beaucoup de dérogations aussi. C'est vrai qu'il y a eu un véritable problème de pédagogie. Et cette réforme des retraites, évidemment, sera au cœur de la présidentielle, sera aussi l'un des principaux leviers pour rétablir les comptes publics déficitaires de la France. La Commission européenne a publié hier, dans le cadre de son semestre européen, des recommandations, son avis d'abord, sur l'état d'avancement de ce rétablissement, et puis des recommandations sur les voies et moyens de réduire ce déficit. On va en parler tout de suite après une courte pause publicitaire. Et à Bruxelles toujours, hier a été présenté un grand plan de souveraineté technologique pour réduire nos dépendances en produits, en services, en infrastructures numériques. On va voir ce qu'en pensent mes experts. Rendez-vous tout de suite dans une minute.
Les experts, débats et controverses sur BFM Business.